plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur ! Les films sont plus harmonieux que la vie, hein, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Bonjour à tous. Cette semaine, tous les cinémas du monde vous offrent le portrait de Jeanne Moreau, actrice, chanteuse, réalisatrice. Elle nous a envoûtés dans Jules et Jim, L'ascenseur pour l'échafaud, où La mariée était en noir. Elle qui tourna dans plus de 130 films sous la direction de grands réalisateurs, d'immenses réalisateurs comme Orson Welles ou encore François Truffaut. Avec nous pour en parler, Jocelyne Tovar, vous êtes l'auteur d'une biographie de Jeanne Moreau parue aux éditions de l'Archipel. Ça s'appelle Jeanne Moreau l'impertinente. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Besnéard, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Est-ce qu'on doit encore vous présenter, ancien directeur de casting? Vous avez été l'agent de Jeanne Moreau. Aujourd'hui, vous êtes producteur, entre autres, de la série 10%. Et puis, vous êtes aussi le délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême. Autant de raisons qui vous ont fait approcher, côtoyer et aimer Jeanne Moreau.
Moi, je compare ma vie à un terrain dont j'ai hérité. Il y a des gens qui vont hériter d'un terrain magnifique au bord de la mer, avec des roses, des magnolias, du mimosa, tout ce que tu veux. Puis il y a des gens qui ont un terrain, il va falloir enlever toutes les pierres, là il y a beaucoup d'ombre, on peut planter ces plantes-là, pas d'autres. Donc il faut apprendre la terre qu'on a à cultiver. Moi ce que j'espère, c'est à la fin de ma vie, laisser un beau jardin.
Jeanne Moreau, voilà, née le 23 janvier 1928 à Paris. Elle nous a quittés à 89 ans. C'était le 31 juillet 2017. Hein, Jeanne Moreau avec sa présence magnétique et puis cette voix emblématique. Là, c'est assez émouvant ce qu'elle raconte, Jocelyne Tovar. En gros, elle dit qu'elle vient de très très loin.
Voilà, qu'elle vient de très très loin et qu'elle veut transmettre. Elle veut nous transmettre un beau jardin.
Est-ce qu'elle en parle
beaucoup
de son enfant, Dominique ?
Un beau jardin, elle a fait une filmographie extraordinaire.
Ah, oui.
Est-ce qu'elle en parlait beaucoup de son enfance, de son opposition à son père, par exemple, qui était marquante pour elle?
L'opposition avec le père, il est très important, parce qu'elle m'a toujours raconté que quand elle était à la Comédie Française, lui, il avait le... Enfin, les gens disent qu'en fin de compte, il n'était pas propriétaire de ce restaurant, comment ça s'appelle?
La Cloche d'Or.
La Cloche d'Or.
Non,
et
il était gérant.
Oui, il était gérant, alors que moi, elle m'avait dit qu'il était propriétaire. Mais en fait, quelquefois, Jeanne, elle avait envie que ce soit encore plus romanesque, sa vie. Et donc, il était venu la voir à la Comédie Française. Elle était très fière qu'il la voie quand même à la Comédie Française, pensionnaire. Et elle l'a vu, il a dormi pendant toute la pièce.
Et c'était quoi la pièce?
Ça je sais pas, mais c'était en tout cas c'était elle devait avoir un rôle important puisque elle était fière. Et là, je pense que c'est des choses comme ça. Elle parlait plus volontairement de sa mère et voilà et de ses sœurs, de sa sœur. Voilà.
Et sa mère qui venait en fait du musical ou du théâtre?
Du musical, c'est ça. Elle avait dansé avec Joséphine Baker et au Moulin Rouge, elle était anglaise. Mais pour la petite histoire, je voulais préciser que oui, il n'a pas du tout été patron de la Cloche d'Or, il était simplement gérant. Puis il a fait faillite en 1930, si bien que Jeanne a connu la Cloche d'Or étant bébé et qu'ils sont partis à Vichy prendre un autre restaurant. Et au temps où elle était à la Comédie Française, il était serveur dans une brasserie à côté de l'hôtel où ils habitaient. Et donc, il était très furieux de voir qu'elle jouait. À ses débuts, la pièce était russe. Elle faisait le rôle d'une jeune femme qui séduisait le mari de la personne qui l'avait abritée. Donc, il était fou furieux. Elle avait eu une gifle. Et puis, pour une autre
son
pièce...
Son père était fou furieux.
Il était fou furieux, son père. Et donc, elle avait une bonne gifle. Et puis là, pour cette pièce-là, il était tout content. C'était quelques années après. Il commençait à être fier de sa fille, mais il a dormi et ronflé.
Toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. D'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux. Avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes. Aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie.
Jeanne Moreau, alors elle a eu plusieurs vies, hein. Jeanne Moreau comme les chats, elle a été, vous le disiez, Dominique Besnéard, Jocelyne Sauvard, elle a commencé à la Comédie Française, par le théâtre, puis après elle est passée au cinéma, à la chanson. Est-ce que c'était une sorte d'actrice totale ?
Ah oui, je pense qu'on peut le dire. Actrice totale, c'était bien ce qu'elle voulait et elle a réussi, puisqu'au départ c'était difficile pour elle, puisque le cinéma elle ne l'a connu qu'en allant écouter dans l'hôtel où ils habitaient, qui jouxtait un petit cinéma, en allant écouter contre le mur les bandes sonores. Et ensuite elle y allait parce qu'elle allait porter une soupe aux projectionnistes, ça c'était l'enfance. Mais alors elle était pénétrée des images, des voix, etc. Elle imaginait. Et puis ensuite, eh bien, dès qu'elle a commencé à faire du théâtre, de tout petit rôle qu'on lui donnait, parce que au départ elle n'était pas pensionnaire du conservatoire, elle était simplement auditrice, mais on lui a donné des tout petits rôles ensuite, et là elle a eu l'idée de faire du cinéma, et du cinéma pas forcément des grands films, ça pouvait être série B,
mais à l'époque il y avait toujours les séries B où généralement les actrices soit des prostituées, soit des filles de ferme qui montent à Paris. Il y a tout ce cinéma des débuts des années 50, voilà. Et après, non mais moi quand elle était moi je pense que c'est l'incarnation de l'actrice. Je pense que Jeanne Moreau, il n'y a pas plus actrice qu'elle. Elle n'a vécu que pour être actrice. C'est pas une mère géniale. C'était vraiment, je pense qu'elle respirait. Et moi, quelquefois, quand je vois les actrices, aussi bien de ma génération, des générations de maintenant, et je me dis, mais faudrait qu'elle soit un peu comme Jeanne Moreau. Tu vois, Jeanne Moreau, ben voilà, c'était elle. Moi, quand je prenais des petits déjeuners avec elle, parce qu'elle habitait à côté de chez moi et j'allais la voir souvent, elle avait tout le temps des projets. Elle disait, voilà. J'ai acheté les droits d'un livre qui s'appelle Perfect Mother de Doris Lessing. C'est elle qui m'a dit, allez acheter, c'est l'histoire de deux femmes, ça peut être un rôle pour moi. Donc j'allais.
Et qui a été d'ailleurs après adapté au cinéma par Anne Fontaine.
Donc je vais l'acheter, elle me dit, ben, comme vous n'avez pas le temps de le lire, je vais le lire d'abord et puis je vous dirai si c'est bien. Parce que c'était pour elle, elle cherchait des rôles. Et en fin de compte, mais je suis beaucoup trop âgé. Donc proposer ça à Nathalie Baye, à Fanny Ardant, c'est tout à fait. Non, elle était. C'était une actrice, elle ne pensait qu'en rôle. Mais pas seulement pour elle. C'est quelqu'un qui aimait transmettre. Mais pas transmettre aux jeunes actrices. Hein. Les actrices de sa génération, elle n'en parlait pas beaucoup. Hein. Mais comme les actrices. Des rivales, des rebelles.
Voilà. Et les jeunes actrices, par exemple, elle avait des liens privilégiés avec de jeunes actrices.
Ah oui, par exemple, Laura Smet, qu'elle avait vue dans le film de Giannoli, où elle avait le crâne rasé. Elle m'avait dit, mais elle est extraordinaire. Donc, elle avait voulu absolument son téléphone pour l'appeler. Elle aimait cette génération-là. Par exemple, elle aimait beaucoup Laetitia Casta. Et voilà, donc elle parlait plutôt à ces jeunes actrices qu'elle n'aurait pas forcément appelées, je sais pas, Macha Merrill ou Marlène Jobert.
Donc, c'était une bonne camarade, mais pas forcément pour les actrices de sa génération. Ouais. Et pourtant, le chemin était difficile pour elle. Enfin, ses débuts étaient assez dur, enfin tout n'est pas tombé.
Oui, non, mais elle a été Comédie Française. Après, elle a fait quand même le TNP.
Oui.
Le TNP, elle a eu du
Théâtre
courage.
Théâtre National Populaire.
Elle a eu du courage de quitter la Comédie Française, où elle était appelée à un avenir extraordinaire, parce que quand même, elle a joué quand même des rôles importants à la Comédie Française. Mais c'est quelqu'un qui prenait des risques.
Ah, oui.
Elle était rebelle. Elle est partie à l'aventure de TNP, on oublie, mais ce n'était pas forcément gagné. Hein.
Non, pas du tout.
Et elle y est allée.
C'était encore une fois des petits rôles. Elle voulait jouer Chimène dans le Cid et être dans les bras de Gérard Philippe, et en réalité, elle a joué l'infante. Et puis elle a joué aussi Nathalie Dorange dans Le Prince d'Hombourg, mais c'était pas des grands rôles. Mais elle a tenu bon. Ça, je parle d'Avignon. Et puis ensuite.
Et puis après, elle est allée au boulevard. Elle est allée faire des pièces au boulevard, et notamment cette pièce avec Suzanne Flon qui s'appelait L'heure éblouissante. Et un jour, Suzanne Flon a été malade et elle a joué les deux rôles. Parce que c'était deux. Il y avait une première partie, moi je n'ai pas le souvenir de la pièce. Et c'est elle qui a joué les deux rôles.
Oui. Et je mentionnais ces débuts difficiles. Alors peut-être que c'est pas tout à fait le mot juste, Dominique Besnéard, mais parce que Je vous ai lu, Jocelyne Sauvard, et vous racontez que son physique, au départ, peut-être pas au théâtre, mais en tout cas au cinéma, a été très critiqué.
Oui, il a été très critiqué, très vivement critiqué, et par Henri Verneuil, par exemple, qui lui avait dit que votre physique, zéro, vous ne ferez rien. Enfin, faut croire qu'il n'avait pas beaucoup de flair. Et puis, d'autre part, en Italie aussi, elle a été... Mais alors, j'ai été sidérée par la violence des articles. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire des articles pareils sur une question de physique, parce qu'elle avait déplu par rapport à Virnalisi, à Gina Lollobrigida, Sofia Loren,
c'était
etc.
C'était pas une beauté classique.
Aux journalistes italiens, voilà.
Non, mais elle était plutôt anglo-saxonne. De reste, elle a intéressé les cinéastes anglo-saxons. Parce que justement, c'est pas une poule, ni une catin. C'était une femme qui avait une, souvent les actrices italiennes, et Dieu sait si je les aime, mais c'est avec le temps, comme Sofia Loren, il faut qu'elle fasse une journée particulière pour qu'on décide que c'est une grande actrice. Mais avant, c'est plutôt le physique. Elle avait quand même quelque chose d'extraordinaire, oui. Et c'est cette bouche. Oui. Et cette bouche, je peux vous dire que les hommes, ont beaucoup, quelquefois, il y a même des références dans les chansons sur la bouche de Jeanne Moreau. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui, c'était une femme, elle a annoncé une modernité. Il y avait une modernité certainement avec Bardot, mais elles ont tourné ensemble, et elle représentait la femme,
libre. La femme libre.
La femme libre, mais liberté intellectuelle, liberté de pensée, et pas seulement une liberté de comportement comme était Bardot. Bardot, c'était autre chose, c'était le physique, elle arrivait à éclater tous les principes, et Moreau, c'est peut-être intellectuellement.
Oui, intellectuellement. Et puis alors, elle avait une beauté multiple, on va dire. Il est vrai qu'elle pouvait avoir un visage ingrat, sévère, etc., notamment dans Mademoiselle. Et puis, l'instant d'après, être complètement rayonnante avec un très beau sourire. Dans Eva, c'est la même chose. Elle a un sourire rayonnant parfois. Parfois, elle est boudeuse. Son personnage est une femme vénale.
C'est l'un
terrible.
Des visages les plus changeants. Hein. Elle peut être presque quelconque ou sublime d'une minute à l'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa rencontre avec Louis Malle qui va justement la faire passer, en tout cas au cinéma, dans un registre différent, Jocelyne Sauvard?
Ah oui, moi je le dirais, avec évidemment Ascenseur pour l'échafaud, mais là elle est encore dans un rôle de bourgeoise, et aussi avec Les Amants, à nouveau bourgeoise, femme d'un grand industriel.
Un jour en coulisses se sont présentés deux hommes très très grands qui m'ont dit qu'ils étaient producteurs et qu'ils représentaient réalisateur Louis Malle, qui voulait faire son premier film, et qui m'ont dit que Louis Malle voulait me rencontrer. Et je me souviens de ce jour, je m'en serais souvenu n'importe comment, mais comme je suis très sensible aux symboles, il faisait une journée magnifique, et tout d'un coup, le ciel s'est couvert, et il y a eu un orage, une violence incroyable. Et le rendez-vous était à la closerie des Lilas. Et là, j'avais les cheveux très longs, naturellement. Je m'étais coiffée, tout ça. Je suis arrivée trempée, comme si je sortais de l'eau. Et ça m'avait frappé, cette rencontre, comme ça, au milieu d'un orage.
Alors, je voulais vous faire entendre cette voix extraordinaire de Jeanne Moreau. Et puis surtout, ce que j'adore quand elle raconte sa rencontre avec Louis Malle. On va raconter pourquoi c'est une rencontre à tout point de vue si importante. Mais elle a un sens de la narration qui est extraordinaire.
C'est une conteuse. C'est quelqu'un qui est assez passionnante quand elle racontait les histoires. Et elle était très imagée, tout ça. Mais il y a un film que j'aime beaucoup avant d'avoir rencontré ses maîtres, Louis Malle, Truffaut ou Jacques Demy. Moi, je l'aime beaucoup dans La Reine Margot.
Ah.
C'est un film, je veux dire, à l'époque, il y avait des films de KPDP, des trucs comme ça. Et souvent, et elle est incroyable dans le film. Elle est formidable. Et elle montre... elle a un jeu d'une grande modernité.
Qui tranche avec celui des autres actrices.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était... Elle était habitée quand même de quelque chose de, et puis elle était surtout imprévisible dans son jeu. On n'attendait pas. Je veux dire, elle est habitée. C'était une actrice habitée. Oui. Et en même temps, qui a une désinvolture dans Jules et Jim. C'est une femme qui a été un exemple pour les autres femmes quand même. Hein. Et quelquefois, on parle plus souvent de Bardot pour dire elle a libéré, mais je pense que Moreau aussi a libéré les esprits.
Complètement, parce que je m'en souviens, c'est le premier film pour adultes que j'ai vu. Donc j'étais avec ma mère, là au Niel, il y avait des cinémas partout dans le 17e à l'époque. Et donc voilà.
C'est pour ça qu'on y habite.
Oui.
On y cherche.
Et Jeanne Moreau, eh bien, je me souviens qu'elle sortait du lit nue. Et ça avait fait un choc, voilà.
Ça, c'est dans Les Amants.
C'était dans
la Reine Marmot.
Il y avait Martine Carole qui avait montré un sein dans un autre film, mais bon, ça avait fait aussi des scandales.
Et elle a aussi une forme de sensualité qui tranche avec celui des autres actrices de l'époque. Je pense aux Darieux ou aux Michel Morgan.
Ah oui, elles étaient plus romantiques. Elles, c'est parfois la sensualité froide, le coup de poignard qui tombe ou le rideau qui s'abaisse d'un coup, ou alors au contraire, beaucoup de flamme et beaucoup de fougue et vraiment quelque chose de très, 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 très plaisant. Par exemple, dans Journal d'une femme de chambre, tout ça, c'est contenu, mais c'est sous-jacent, ou bien dans d'autres films comme Les Amants, où là, elle y met tout l'amour et toute la lumière qu'il faut.
Non, mais déjà, Darieux et Morgan, c'est une génération bien avant quand même. Hein. C'est dans les années 40, elle arrive dans les années 50. Donc c'est quand même, on peut pas, c'est pas la même génération quand même.
Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson,
ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.
Ah là là, le balancement du rocking chair hein, dans Jules et Jim de François Truffaut en 62. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que c'est une improvisation en fait, Jeanne Moreau qui chante
C'est pas tout à fait improvisé à l'instant, mais il est vrai qu'il n'était pas prévu que Serge Resvani vienne. Et il est arrivé, et donc, comme elle avait l'habitude de chanter avec Truffaut en voiture, etc., ils ont chanté. Et lui, il avait écrit cette chanson sur un coin de table. En fait, c'était pour parler du couple Jean-Louis Richard, Jeanne Moreau, qui se séparait, qui se remettait ensemble. Et donc, voilà. Et puis là, Truffaut l'a entendu, donc comme ça, en catimini. Et puis il a dit, mais c'est très bien ça, on va pouvoir le chanter dans le film. Surtout qu'ils s'ennuyaient tous dans ce chalet, c'était trop long, les 15 jours dans le chalet de tournage. Et voilà.
Et de sa génération, c'est un peu la seule, non, qui va tourner avec la nouvelle vague. Je me tourne vers vous, Dominique Besnéard.
Il y a Carina.
Carina, Deneuve. Bernadette Lafont, mais elles sont plus.
C'est Carina pas la même génération. Et il y a Stéphane Audran aussi.
Mais c'est pas la même génération, tout à fait.
Oui, non, mais elle, parce que c'est elle qui les a inspirées, puis c'est quelqu'un qui pouvait, pour ce genre de créateur, elle, comme elle avait une force de conviction, elle, certainement, elle leur disait qu'elle était, ils pouvaient pas ne pas la prendre. Une fois.
Mais c'est quand même elle, du coup, qui venait vers eux. Et
moi, je pense, en tout cas, moi, j'ai toujours vu, mais ça, moi, c'était les 10 dernières années de sa vie. Moi, j'ai toujours vu solliciter. C'est-à-dire que quand elle voyait beaucoup les films, elle écrivait aux cinéastes et elle leur disait, elle écrivait pas forcément pour dire pensez à moi, mais elle disait moi j'aime beaucoup votre travail. Et souvent, par exemple François Ozon, qui était mon client quand j'étais agent, elle a tout de suite remarqué qui c'était. Elle m'a dit moi je veux le voir. Alors elle lui disait pas vous sortez pas de la pièce sans m'avoir écrit un rôle, mais il y avait un peu de ça quand même. Elle avait un pouvoir de persuasion, et quand on est un jeune cinéaste et qu'on rencontre Jeanne Moreau qui vous dit qu'elle aime votre film, hein, je veux dire ils ont la tête tournée. Et mais elle savait faire ça. Il y en a très peu, mais elle le faisait pas d'une façon comme une arriviste. Elle le fait parce qu'elle aimait le film. Par contre, elle le faisait pas quand elle fallait vraiment qu'elle trouve cette personne est douée, soit douée.
Elle préparait le terrain, par exemple, à Joseph Losey, elle lui avait écrit. Après, elle a dit, mais non, c'est arrivé comme ça. Mais non, bien sûr, elle lui avait écrit, parce que, pareil, une lettre qui montrait combien elle aimait son talent et combien elle l'appréciait. Et puis, voilà. Et elle a su qu'il aimait la musique, il aimait le jazz, etc. Et donc, elle s'est mise en condition, et quand elle l'a invité dans son château qu'elle avait loué, hein, simplement pour les vacances, eh bien, il est arrivé dans une maison où c'était un peu étrange, où elle était vêtue de noir, où il y avait du jazz, et voilà.
Et est-ce que, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, c'était plus, ce qui est à son honneur, c'était plus le talent des cinéastes que la beauté ou la longueur ou l'importance du rôle qu'on lui donnait.
Tout à fait, le talent, avant tout.
Et la satisfaction dans la note des femmes qui cherchent à émerger, à exister en dehors du couple. Déjà, c'était une révolution. Maintenant, on s'en fout. Les histoires d'amour, les histoires entre un homme, une femme, on y revient, mais le cinéma est vraiment notre miroir, nous. Et c'est pourquoi c'est un art majeur, parce qu'il nous permet de découvrir toutes les cultures du monde entier. Toute la façon, il devrait amener à une acceptation, à une compréhension de l'autre.
Qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai juré de continuer la révolution.
La révolution? Tu es folle!
Peut-être.
Et comment? Avec qui?
Avec eux.
De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux non.
Allez, les petites femmes de Paris. Allez, les petites femmes de Paris. Allez, les petites femmes de Paris.
J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah, comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. 10 fois 100 fois 1, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune.
Allez, petite femme de Paris. Allez, petite femme de Paris. Allez, petite femme de Paris.
N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car de ces trois dunes, la tête y en a qu'une. Ah non, il y en a deux. Pour les amoureux, chacun sa chacune.
Un extrait de Viva Maria de Louis Malle en 1965, où voilà, elle est face à Brigitte Bardot. Elles sont deux actrices chanteuses de musical et elles se retrouvent prises dans la révolution mexicaine. Et là, on se dit que c'est vraiment pas un hasard si Malle l'a fait tourner face à Bardot. Parce que c'est deux figures de la modernité, quand même.
Complètement. Alors, l'une, c'est le monstre sacré, Brigitte Bardot, et Jeanne Moreau, pour lui et pour Truffaut, c'est la plus grande actrice et c'est la grande amoureuse. Donc, ça va très bien. Mais ça a été un sacré challenge pour Jeanne, parce qu'elle elle redoutait quand même d'être face à Brigitte Bardot, de par le physique, l'aura, la sensualité. Mais Brigitte Bardot avait très peur de rencontrer Jeanne Moreau, avec sa réputation d'intellectuelle, etc. Et puis, finalement, ça s'est bien passé parce qu'ils ont été quand même assez fascinés l'une par l'autre. Et il n'est pas vrai qu'elles se sont déchirées au Mexique comme les journalistes locaux.
Oui, mais il y avait eu un truc que Bardot avait dit qu'elle n'avait pas du tout apprécié, que ça devait être un peu un plateau fermé et qu'un jour, il y a des journalistes sont arrivés pour parler de Jeanne Moreau et pas de Bardot. Et Bardot n'aimait pas la presse et tout ça. Et donc, elle n'avait pas apprécié. Et je sens qu'il y avait eu quand même un petit tirage, mais c'est rien. Mais du reste, quand Jeanne est partie, Bardot a fait des très jolies déclarations sur elle.
Et vous qui avez été son agent, Dominique Besnéard, est-ce que c'était une bonne camarade, Jeanne Moreau, sur un plateau?
Elle inspirait le respect. Hein. Moi, j'ai connu quand même, c'était pas la Jeanne Moreau, c'était plus une Jeanne Moreau qui commençait à être un peu âgée, mais quand même, elle inspirait le respect. Et quand elle arrivait, c'était un peu Madame Tapdur. Hein. Elle n'a pas intérêt de faire quand les gens savaient pas leur texte.
Elle savait se faire respecter.
Moi, j'ai vu un jour sur un film avec José Dayan, je crois que c'est peut-être pas Les Misérables, mais je sais plus. Hein. Et elle, Depardieu ne savait pas son texte. Elle lui dit, écoute, tu apprends ton texte et on travaille. Hein. Et personne ne mouffetait. Hein. Mais tant mieux, parce que c'était, à mon avis, elle avait dû voir ça chez Gabin, parce que Gabin, il était un peu redresseur de tort quand on savait pas le texte, quand on se permettait de, et elle avait quand même, moi j'adore ce film avec Gabin, Touchez pas au Grisby,
tu reçois une gifle, magistrale.
Ils sont, moi je les trouve très sexy tous les deux, hein.
Ah, oui.
Et elle, voilà, donc, elle a instauré une discipline et voilà, et en même temps, moi j'ai fait un film en Italie où José la Castiglione, un truc vraiment, qui est resté qu'en Italie, heureusement, et il y avait une actrice qui était un peu imposée par la coproduction italienne, dont j'ai oublié le nom, mais elle a eu un certain nom à un moment donné. On disait que c'était la fiancée de Berlusconi, donc elle avait chaque année des films. Et tout d'un coup, c'était quand même une très mauvaise actrice, cette actrice dont je ne citerai pas le nom. Et elle lui a dit, mademoiselle, respirez pendant la prise. Elle lui a donné une leçon de comédie. À mon avis, c'est un peu amélioré, mais elle n'est pas devenue une actrice importante pour ça.
Jocelyne Touvard.
Oui, eh bien, surtout que Jeanne était très pointilleuse sur la diction, la ponctuation, elle respectait le texte, mais vraiment à la virgule près, même davantage. Enfin, voilà, et elle ne supportait pas qu'un comédien n'en fasse pas autant.
Oui, c'est ça. Ça lui venait probablement de ses années de formation à la Comédie française. Enfin, une grande, presque une discipline de danseuse.
Oui, mais en même temps, c'était pas quelqu'un de conventionnel et de classique. Hein. Elle aimait les vraies natures et les gens qui ont une personnalité. Et elle aimait pas forcément si on phrase bien et qu'il n'y a pas une personnalité. Elle acceptait pas non plus.
Il fallait les deux.
Il fallait les deux. Voilà. Il fallait le grand talent
et le travail. Est-ce qu'elle a pris beaucoup de risques, Jeanne Moreau? Parce que je suis un peu curieuse, mais c'est la seule quand même de sa génération qui va avoir une carrière internationale. Elle va tourner avec beaucoup d'anglo-saxons, effectivement. Oui, Peter Brook, Lozé. Elle va aussi tourner avec Angelopoulos, Antonioni. Elle parlait tout à l'heure de La Notée. Elle va tourner avec Buñuel.
Oui,
Journal d'une femme de chambre.
Et un Mosquitaille qu'elle aimait beaucoup, avec qui elle a fait plusieurs films.
C'est une aventurière, en fait. Elle est toujours partante pour une nouvelle.
Oui, elle était toujours partante, mais même elle a, je sais même pas si dans, elle a fait un film avec moi au Québec, parce qu'elle avait quand même parfois des problèmes d'argent, et elle a fait un film qui n'est même pas sortie en France, mais c'était pour des raisons financières. Puis elle avait envie de tourner aussi. Et je peux vous dire que elle a été le metteur en scène, il s'en souvient encore, hein, parce que elle parce que elle trouvait incompétent et elle arrivait même au Québec. C'était Jeanne Moreau quand même. Et je peux vous dire qu'au bout de quelques jours, elle en pouvait plus. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà.
Elle vous a engueulé?
Ah non, parce qu'elle avait absolument voulu le faire, parce que puis elle aimait bien le Québec, ça lui rappelait des bons souvenirs, mais non, mais en fin de compte, quand les gens étaient moyens, elle le décelait tout de suite, et au lieu de... Alors elle pouvait les aider à s'améliorer, ou les rejeter. Elle était très tranchée, Jeanne.
Très. Et je voulais dire aussi qu'elle a tourné avec Marguerite Duras. Et donc, Marguerite Duras, dans les années 58-59, avait été très remarquée pour le scénario d'Hiroshima, mon amour. Mais après, comme réalisatrice, elle a parfois été critiquée par les gens de la profession, certains grands metteurs en scène et autres qui l'ont critiquée. Mais elle s'en est moquée. Elle a fait son cinéma à elle. Et donc, Jeanne est allée vers cette femme, cet écrivain qui lui paraissait extraordinaire ce qu'elle était. Et qui faisait son cinéma à elle. Donc il y avait eu Moderato Contabile, mise en scène par Peter Brook, mais il y a eu aussi Nathalie Granger, tournée par Marguerite Duras, réalisatrice. Et là, c'était vraiment un film de ces deux femmes-là, avec Lucia Bosé, qui était très très fort. C'était les femmes dans la maison, c'était du reste, ça se passait à Nauphle, le château, chez Marguerite. Et c'était vraiment un film... Mais qui tranchait beaucoup, hein. C'est 1973, et en noir et blanc, et avec l'apparition de Gérard Depardieu, qui est absolument génial dans ce rôle, très petit rôle. Voilà. Et donc, elle allait vers Marguerite Duras.
Et vous diriez que d'une certaine façon, elle a ouvert la voie, Jeanne Moreau, peut-être d'un point de vue féministe, par exemple.
Mais elle était très féministe. Mais elle était féministe où, à l'époque où les féministes étaient des femmes qui aimaient les hommes et les hommes les aimaient. C'était pas ces mouvements féministes.
Ça n'a pas changé, hein.
Oui, mais il y a certains féministes que moi, je préfère qu'elles se taisent quand elles se permettent de dire qu'un homme sur trois est un prédateur. Suivez mon regard. Je préfère ne rien dire en la citant. mais je vais vous dire, elles, c'est comme Delphine Seyrig, elles aimaient les hommes. Mais en même temps, elles, voilà, c'est tellement compliqué quand on est une femme de dire que c'est normal qu'un homme vous séduise. Alors alors qu'elle était là, c'était une séductrice. Peut-être qu'on a oublié de dire le mot principal. C'était une séductrice pour le public, pour les hommes et pour elle voulait. Elle était dans un endroit. Elle aurait séduit le micro là. C'était la séductrice.
Et souvent d'ailleurs, les grands cinéastes qui ont été importants pour elle, sont des hommes dont elle a partagé la vie. Enfin, c'est ce que vous disiez sans doute tout à l'heure aussi, Dominique Besnéard, c'est que c'est l'actrice ultime, c'est-à-dire que tout se mélange.
L'actrice ultime, voilà. Ça pourrait être là. Si vous refaites un livre, il faut changer le titre. Et puis alors, on oublie un peu quand même le théâtre de ces dernières années, hein, parce que le récit de la servante Zerlin, c'est quand même un moment de théâtre extraordinaire. Et elle est devenue une pop star. Elle était seule sur scène avec un partenaire qui parlait presque pas.
Oui.
Et elle était là. Et moi, j'ai vu à Mogador voir une actrice comme une pop star. Les gens venaient la voir. Et elle avait des acclamations. Tous les Hanke dans les années 70,
la chevauchée
sur le sac de Constance.
Mais justement, on a l'impression que c'est un peu un phénix, Jeanne Moreau, c'est-à-dire elle n'arrête pas de disparaître et de renaître sans cesse.
Oui, elle renaît après une dépression, après un creux. Oui, c'est vrai, elle renaît. Là, comme le disait Dominique Besnéard, c'était extraordinaire, la servante Zerline. Et là, ça avait été difficile pour elle parce qu'il avait fallu accepter de jouer le rôle d'une dame âgée. Or, elle n'avait pas l'âge pour ce rôle. Il avait fallu se vieillir, avoir les cheveux gris, blancs, etc. Et puis avoir ce rôle de servante très très dur et très étonnant, cru.
Je crois aux vertus du travail, de l'approfondissement, de... Je n'ai pas de carrière. C'est confondu avec ma vie. C'est un artisanat, si on veut. C'est un travail collectif.
Il y a peu d'actrices hein, qui diraient ça, Dominique Besnéard.
Oui, mais il y a peu d'actrices qui savent parler comme Jeanne Moreau, qui ont des réflexions qui sont des vérités. Non, mais Jeanne, c'est vrai qu'elle était quand même... Vous savez, Jeanne, où elle était vraiment extraordinaire, c'est dans sa cuisine. D'abord, quelqu'un qui aimait vraiment faire la cuisine. Elle cuisinait très bien.
Comme Marlène Dietrich.
Comme Marlène Dietrich. Elle faisait peut-être pas du pot-au-feu, mais elle faisait...
Pour Jean Gabin.
Et alors, moi prendre les petits déjeuners avec elle, parce que j'allais la voir. Et quand on était en face d'elle, je sortais de là et j'avais appris quelque chose. Elle m'apprenait quelque chose. À chaque fois, sur un livre, sur un auteur, sur même un comportement dans la vie, elle me dit... voilà, et alors elle faisait des petits déjeuners, donc... Et puis si on mangeait pas, elle a l'impression que c'était peut-être son père qui était là. Elle voulait absolument qu'on mange. Elle me dit mais mangez. Et puis j'ai le meilleur beurre. Elle allait chercher les fruits. Elle était. C'est une femme aussi qui était. Alors ça c'est aussi lié à la sensualité, à la vie. Et elle savait cuisiner. Et ça veut dire qu'elle s'intéressait. Elle donnait aussi quand on fait la cuisine ce qu'on a envie de donner.
C'était une terrienne.
Oui, elle avait un côté terrien.
Ah oui. Oui, vraiment, son enfance dans la campagne en Allier, et puis dans le Puy-de-Dôme chez Mémé, c'est-à-dire cette dame, cette amie de la famille qu'elle prenait pour sa grand-mère, qui était charmante, eh bien, elle aimait la terre, elle aimait les bois, le Limousin, l'Auvergne, elle aimait les rivières, elle jouait avec les gamins du coin, et puis après, elle, avec Mémé, elle a appris à dégermer les pommes de terre, à tresser une belle table, etc. Et elle aimait les animaux aussi de la ferme, les chiens, etc. Oui, c'était une femme de la terre. Ça se voit bien dans Nathalie Granger.
Et comment elle nettoie. Oui. Dans l'adolescente.
Ah oui.
C'est autobiographique. Hein. Et oui. Le film qu'elle a réalisé, que j'ai pas revu, je sais pas si c'est... Parce que le premier film de Jeanne comme réalisatrice, Lumière, c'était un film magnifique, avec des femmes magnifiques, Lucia Bosé, oui. Francine Rassette, c'est les femmes qui parlent des hommes. Moi, je me souviens d'un film qui m'avait marqué. Mais là aussi, il faudrait les revoir, ces films.
Et ça aussi, c'est important d'en parler, parce que finalement, peu d'actrices aussi de cette génération sont passées derrière la caméra. Elle a fait deux films, pas plus d'ailleurs. C'est vrai que.
Elle a fait un documentaire sur Liliane Guiche aussi.
Ah oui.
Mais c'est vrai que. Oui, à l'époque, quelles sont les autres actrices non, qui n'ont pas fait de films. Elles ont produit des films, certaines, mais elle, c'est vrai, elle a fait du cinéma quand sa situation d'actrice était un peu compliquée, donc c'était, à mon avis, dans
76.
Elle est 76, Lumière, exactement, et l'adolescence 79, donc elle a 51 ans, c'est ça?
Donc c'est le moment difficile.
À l'époque, c'était difficile pour les actrices de passer la cinquantaine. Maintenant, c'est difficile, c'est de passer 70 ans. Au moins, ça, c'est formidable.
Oui.
Mais à l'époque, à 50 ans, c'était une actrice qui vieillissait. Alors que franchement, maintenant, les femmes de 50 ans, c'est les plus belles.
On a l'impression qu'elle avait une volonté de faire Jeanne Moreau. Quand on voit sa carrière qui est quand même immense, protéiforme,
oui.
Qui comprend le théâtre, le cinéma, bien sûr.
Sa carrière, c'était sa vie, comme elle l'a dit, quoi. Ça gérait tout, son cœur, son corps. Vraiment, sa carrière, c'était le plus important pour elle. Plus important que la maternité, plus important que l'amour.
Non, c'était pas une très bonne mère, elle le dit elle-même. Hein.
Non.
C'était pas une mère. Je suis pas sûr qu'elle aimait tellement les enfants.
Non.
Je l'ai jamais vraiment vu parler d'enfants, s'intéresser aux enfants, alors que je pense qu'elle aimait les animaux. Mais là aussi, il y a toute une réflexion à faire sur les actrices, les ex-stars symboles, qui ont un amour pour les animaux plus que pour les enfants, pourrait faire un livre.
Hein. Vous pensez à Brigitte Bardot, à Tippi Hedren.
Ouais, il y en a beaucoup.
Alors, on parlait des enfants, on parlait de sa carrière. Il faudrait aussi parler de l'amour, parce que l'amour a une importance extraordinaire pour Jeanne Moreau. Écoutez-la.
Et l'amour ?
Ah, l'amour, on en parle beaucoup, me semble-t-il. L'amour, c'est ça, oui. Recevoir et donner, recevoir et donner, sans rien attendre. Et même si on est séparés, l'émotion est là, quoi, comme si on venait de se quitter. Moi, je vis beaucoup avec mes morts, beaucoup, beaucoup.
C'était une grande amoureuse, Jeanne Moreau.
C'est une grande amoureuse qui était très déçue parce qu'en fait, à la fin de sa vie, elle a dit qu'elle n'avait jamais connu le grand amour, qu'elle avait connu des amours, notamment Louis Malle, elle le comptait parmi les amours qui ont le plus compté, Pierre Cardin aussi, puis quelques autres. Mais voilà, c'était son regret, elle l'a dit, elle l'a dit au cours de différentes interviews, puis elle l'a dit en privé à certains amis, je sais pas, et puis elle a ensuite dit au moment, enfin, un an avant sa mort, et quand une journaliste lui a demandé si elle était amoureuse, elle a dit non, elle a laissé un silence, puis elle a ajouté j'aime, c'est pas pareil. Et alors après, tout le monde s'est creusé la tête pour savoir qui elle aimait à la fin de sa vie, comme ça. Et un journaliste a dit, eh bien, moi, je pense que le dernier amour de Jeanne Moreau, c'est Étienne Dao.
Je pense qu'elle a beaucoup aimé Étienne Dao. Hein. Du reste, elle aimait les jeunes cinéastes, les jeunes acteurs. Elle adorait tourner avec les jeunes, voilà. Donc, mais je pense qu'Étienne Dao, elle a fait son dernier spectacle avec lui, donc. Oui. Et en plus, comme Étienne, c'est quelqu'un de discret. C'est pas quelqu'un qui, il est délicat, il est fin. Et voilà, je pense pas que elle a eu vraiment des histoires avec des machos, voyez.
Elle a quand même été mariée avec William Friedkin et c'était assez apocalyptique.
Pas longtemps, hein. Elle s'est mariée deux ans.
Deux ans, c'est ça. Et ouais. Elle est partie, c'était drôle comme elle est partie, du reste,
elle a vidé l'appartement, non, c'est ça?
Oui, bah, il n'était pas là, il était en tournage, et donc elle en a profité, puisqu'ils étaient invités en France à un festival en montagne. Hop, elle a sauté dans l'avion, et puis elle lui a fait savoir qu'elle restait en France, il n'était pas content.
Et Dominique Besnéard, est-ce qu'elle avait des regrets? Alors là, je parle moins des regrets amoureux que des regrets de carrière à la fin de sa vie.
Non, moi je pense pas qu'elle avait, parce que quand même elle a fait une telle carrière, elle aurait pu avoir quoi comme, peut-être qu'elle aurait aimé refaire un film, peut-être comme réalisatrice, peut-être que voilà, elle a eu à un moment donné des tentatives de vouloir refaire de la mise en scène, mais par exemple la collaboration, moi j'aime bien en parler quand même avec José Dayan, c'est que José Dayan, elle
très très importante, très importante. Son ils ont histoire quand même avec José
ils
Dayan,
ont fait un... mais c'est une histoire absolument platonique, hein, mais c'est une histoire de voilà, où je pense qu'elle avait envie d'être protégée. Et José, quand même, elle l'a protégée, même par rapport à ce qu'elle tourne. Quand elle a fait Les Rois Maudits, la deuxième version, c'est aussi parce qu'elle voulait Jeanne Moreau. Et donc, ce qui est quand même assez beau, et moi souvent, elle a fait quand même un film merveilleux, hein,
Cet amour-là,
c'est un beau film qui a été complètement...
Sur Marguerite Duras,
oui, mais parce que là,
Jeanne Moreau incarnait Marguerite Duras.
Et alors,
Duras.
Mais ce qui m'énerve dans cette vie, c'est que comme les gens mettent les gens dans des cases, José Dayan qui fait de la télévision populaire et qui en même temps a fait aussi, au début de sa carrière, elle a fait des films très féministes, avec Malka Rybowska et tout ça. Et là, on n'a pas considéré ce film. Et ce film, c'est un bijou. Et Jeanne, elle en était très contente. Alors, si vous voulez, elle l'a protégée certainement, José, comme ça, pour qu'elle tourne, parce qu'elle était fascinée. Et en même temps, José écoutait beaucoup les avis de Jeanne, parce que Jeanne, elle a un goût, elle avait sur les acteurs, par exemple, les Rois Maudits, je me souviens, c'était à l'époque où j'étais agent des deux. C'est notre amie Jeanne qui a demandé qu'on prenne Julie Gayet pour faire la princesse de je sais plus quoi, ou la, en disant il faut prendre Julie Gayet. Elle l'avait vue, voilà.
Donc elle était très cinéphile, avait l'œil, si je puis dire, hein, aux aguets pour
repérer. Ah oui, non, mais elle connaissait les acteurs, elle connaissait les cinéastes, des courts-métrages. Moi, combien de fois elle m'a dit, mais j'ai vu ce court-métrage à la télévision, vous devriez le voir, il est très bien. Alors, je notais, et puis 8 jours, quand je la revoyais, elle me disait, vous ne l'avez pas vu, mais ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis. Je disais, non, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais vous devriez voir. Donc voilà, elle était, c'était quand même quelqu'un qui avait envie aussi de le livre de Doris Lessing et d'autres qu'elle m'a fait lire en me disant ça pourrait être des films.
Oui. Et puis cet amour de la jeunesse aussi, hein, parce qu'il faudrait aussi parler de notre ami Claude-Éric Poirou, ouais, qui l'a fait venir au festival Premier Plan d'Angers, et elle avait un appétit, c'est un festival de premier
film. C'est moi qui les ai présentés.
Ah bah bravo, ah, Dominique Besnéard.
Oui. J'aimerais bien qu'on le rappelle,
et
mais c'est
le
vrai.
On le rappellera.
Non mais on le rappelle parce que lui le dit tout le temps, donc Claude-Éric est un homme très droit, et après, ça c'était beau, parce que Claude-Éric, il est aussi un peu amoureux de Jeanne, elle avait des relations. Alors il y avait un truc avec Jeanne, il fallait pas être trois. Quand on était trois, elle
ça
avec deux
pas.
Personnes. Non, il y avait une tête.
Contrairement à Jules et Jim.
Il y avait une tête de Turc. Hein. Donc moi, j'évitais de voir trois personnes parce qu'elle adorait un peu dire voilà, vous voyez Dominique Claude-Éric, ce qu'il dit est très bien. Vous ne l'avez pas. Et où elle disait à Claude-Éric, Dominique, non, elle met bien comme ça, divisée gentiment, hein. Mais moi, j'avais préféré l'avoir en tête à tête.
Oui.
Jocelyne.
Oui, je voulais dire quelque chose à propos de José Dayan. En fait, aussi, elle repensait les scénarios. C'est-à-dire que José Dayan m'a dit, j'avais même pas osé appeler Jeanne Moreau pour lui demander d'incarner la mère de Balzac, j'ai demandé à Gérard Depardieu de l'appeler. Et puis elle a dit non, j'ai pas envie, etc. Et quand on s'est parlé, elle m'a dit, écoutez, le scénario, c'est pas tout à fait ça. La mère de Balzac, il lui faudrait quand même un peu d'humanité, etc. Elle a fait changer le scénario, et en réalité, elle l'a joué, elle a fait un très beau rôle.
Voilà, c'était Jeanne Moreau, portrait d'une icône. Et on se quitte hein, sur la musique sublime d'India Song de Marguerite Duras. Merci Dominique Besnéard.
Merci chère Elisabeth.
Merci Jocelyne Tovar.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre belle biographie, Jeanne Moreau, l'impertinente, c'est paru aux éditions de l'Archipel. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéret, à la réalisation, Fanny Renard. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, qui parlera d'elle, maintenant disparue, toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire.
C'est reparti en cette période de